J'ai voulu terminer sur, terminer façon de parler, sur le thème que nous avons abordé la semaine dernière et la semaine d'avant. Nous avons débuté l'année en parlant de ce texte de l'Ancien Testament, « Tu seras sauvé, toi et ta famille ». Vous vous en souvenez ? Oui. C'était le premier dimanche de l'année, « Tu seras sauvé, toi et ta famille », en rappelant que quelquefois, le salut de nos proches, il n'est pas entre nos mains. Par contre, le témoignage est entre nos mains. Et quelquefois, loin de les amener à Dieu, on les a éloignés de Dieu par nos comportements, par nos attitudes. On n'a pas été toujours très raisonnable et très sage dans bien des domaines. Néanmoins, nous avons raison de croire que si le salut est entré par notre porte, par notre action, par notre conversion dans notre famille, la volonté de Dieu, c'est que tout s'entende, évidemment, que tout soit sauvé. Donc, nous devons travailler à cela. Et puis, nous sommes revenus sur ce qui arrive dans une famille qui ne devrait jamais arriver, les disputes, les jalousies. On a parlé des jalousies, on a parlé de Galates, chapitre 5, notamment, et verset 19, qui parle des œuvres de la chair. Et nous avons rappelé que les œuvres de la chair sont en désaccord avec la vie chrétienne, ça ne fonctionne pas avec ce que Dieu veut que l'on fasse et de la manière dont on devrait agir. Alors, les œuvres de la chair sont manifestes. On parle de l'impureté, on parle du péché à proprement parler, tout le monde comprend ce que ça peut signifier, le vol, l'adultère, les mensonges, etc. Mais il y a un pack, sans parler des excès, on parle d'ivrognerie, on parle d'excès de table, etc. Il y a une bienséance à tenir dans la vie, mais ça c'est quelque chose que l'on peut saisir. Et puis il y a un pack qui est apporté, et je l'ai associé tout ensemble. On parle, pour moi, d'inimitié, de querelle, de jalousie, d'animosité, de dispute, de division, de secte et d'envie. Et pour moi, c'est tout la même chose. Ça parle de jalousie. Ça part d'attitude que l'on a vis-à-vis de frères et sœurs. Et souvent, c'est la jalousie qui entraîne bien des débordements. Alors, on a vu ce qui s'est passé pour plusieurs, de quelle manière ils se sont comportés, je ne reviens pas là-dessus. Mais j'ai voulu revenir sur un cas qui est là aussi surprenant. C'est le cas de Joseph, parce que voici ce qu'il est dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, et à partir du verset 12, Joseph va être mis à contribution par son père. Et il va lui demander de simplement aller chercher quelques nouvelles de ses frères. Et il va le faire. Et on s'arrêtera sur cette expression « Je cherche mes frères ». Donc Genèse chapitre 37, verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Jacob, Israël, son deuxième nom, dit à Joseph « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit « Me voici ». Israël lui dit « Va, je te prie ». Et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant « Que cherches-tu ? » Et Joseph répondit « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau ?» Et l'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothan ». Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils dirent l'un à l'autre « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. » Vous dites Amen avec moi ? Si nous avons parlé des œuvres de la chair, et on a vu jusqu'où pouvaient mener les jalousies, ça peut aller jusqu'au meurtre, on se souviendra aussi que le fruit de l'Esprit, c'est ce qui suit dans les Galates, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Un peu plus loin, dans les Colossiens, pour rester dans le même thème, il est dit ceci, « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Je fais exprès de mettre en bleu ces verbes. « Revêtez-vous, supportez-vous, pardonnez-vous, et encore revêtez-vous. » Et puis, 1 Jean chapitre 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» C'est la palisse, hein ? Non ? Il n'aurait pas dit mieux, hein ? C'est pas possible d'être chrétien et de dire « J'aime Dieu » s'il y a des querelles, des conflits, des difficultés. Alors on va se mettre non pas du côté des frères, on va se mettre du côté de Joseph. Vous comprenez bien qu'en lisant le texte que je viens de partager avec vous, que Joseph est dans le viseur de ses frères. C'est-à-dire que tous ses frères sont devenus quasiment des snipers. S'ils passent par là, ils vont lui tirer dessus. Sans aucun doute, il y a de la haine dans leur cœur. Et on a coupé court la dernière fois à ces explications, mais il y avait certainement un terrain très favorable à cela. Alors je me pose la question, quand Jacob vient vers son fils Joseph et lui dit « J'aimerais bien avoir des nouvelles de tes frères et j'aimerais bien que toi tu t'en occupes et que tu ailles chercher quelques nouvelles de tes frères. » Là, je me suis posé la question, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à supporter ? Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller ? Quand en retour, on reçoit que des insultes, on reçoit que de l'animosité, on reçoit que de la violence dans les mots, de la violence dans les attitudes, jusqu'où est-ce qu'on est capable d'aller ? Finalement, quand on fait quelque chose, que ce soit pour nous, mais quand on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, où est-ce que vous situez le gain, le bénéfice ? Est-ce que vous le faites parce qu'il y aura un bénéfice pour vous ou est-ce que vous le faites parce qu'il y aura un bénéfice pour l'autre ? C'est une question à se poser parce que quelquefois on n'a pas fait certaines choses parce qu'on a réfléchi et on s'est dit « ça ne me rapporte rien, donc je ne le fais pas ». J'ai l'impression que ça ne va me rapporter que des coups, ça ne va me rapporter que des histoires, ça ne va me rapporter que des problèmes, je ne fais pas. Certains ont à l'esprit que cette motivation. J'ai connu quelqu'un comme ça. On appelle ça des égoïstes, on appelle ça des égocentriques, ils ne pensent qu'à eux. J'ai connu quelqu'un qui ne se bougeait pas trop, mais par contre, quand il était à fond pour quelque chose, il était vraiment à fond. Mais vous pouviez être sûr qu'il le faisait parce que ça lui rapporterait quelque chose, sinon il ne le ferait pas. Il n'y avait pas de sacrifice, si vous voulez, de la personne. Il n'y avait pas de volonté de bénir les autres. Et si d'autres ont été bénis, c'est parce qu'au bout de la chaîne, c'est lui qui en profitait le plus. Joseph n'a pas réagi comme ça. Et je crois que si on est chrétien, on ne peut pas réagir comme ça. Quand on lit tous les textes, quand on relit et remémorez-vous ces textes dans Colossiens chapitre 3, dans Galates chapitre 5 et dans ce texte que vous avez encore à l'écran, souvenez-vous de ces passages. On comprend bien qu'à un moment donné, si on veut plaire à Dieu, on choisit l'intérêt majeur. Et l'intérêt majeur, ce n'est pas nous, c'est lui. L'intérêt majeur, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Le plus important, ce n'est pas que nous, on s'en sorte bien, mais c'est que Dieu soit glorifié. C'est ça l'intérêt majeur. Et c'est comme ça que, il me semble, Joseph a laissé sa vie être conduite. D'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure au travers d'un nom spirituel. Ça ressemble à ce que l'on va voir maintenant au travers de la prédication. Je crois que le plus important pour être au-dessus des jalousies, des sectes de l'envie, des querelles, des divisions, comme Galates en parle, c'est tout simplement comprendre que c'est un sacrifice qu'il fallait accomplir. Joseph a décidé d'accomplir un sacrifice. Jacob, je reviens là-dessus, veut avoir des nouvelles de ses enfants, ils sont partis. Ils ont fait quand même du chemin pour aller paître les troupeaux, donc ils rentrent pas à la maison tout le temps. Et ça fait quelque temps qu'ils sont partis. Il compte sur la bonne volonté de son fils Joseph. Quel intérêt dans cette histoire ? Quel intérêt a Joseph ? Dites-moi, est-ce qu'il a un seul petit intérêt de s'occuper de ses frangins ? À votre avis ? Pour moi, j'en vois aucun. Quand on voit de quelle manière ils vont le recevoir, d'ailleurs. Hein, si on avait dit à Joseph, écoute, moi, si j'étais toi, j'irais pas parce que je suis pas bien sûr que ça se passe bien. À la limite, à la maison, on imagine que toute la famille était un peu contenue parce qu'il y avait le père, il y avait la mère, etc. Donc, mais j'imagine que plusieurs fois, on lui a fait quelques croche-pieds, peut-être même quelques crasses par derrière. Il ne le supportait pas. On l'avait lu la semaine dernière, on l'avait lu la semaine d'avant, dans le début du chapitre 37. Il nous est dit qu'il le haïssait. Les 10 autres frères le haïssaient à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Mais le texte insiste en disant qu'il ne pouvait pas lui parler avec bonté. Il n'y arrivait pas. À chaque fois qu'il s'adressait à leurs frères, c'était un pic, c'était une agression, c'était quelque chose de verbal, c'était, j'imagine, quelque chose de physique, parce qu'on comprend très bien ce qui se passe. C'est un petit peu le bouc émissaire dans la cour d'école. C'est la victime dans la cour d'école. Ça existe encore aujourd'hui. Hein. Ça existe encore aujourd'hui. Des enfants qui sont maltraités, certains sont poussés au suicide. Donc, il y a quelque chose d'un harcèlement moral qui est effrayant. Il vit, il supporte ces choses-là. Et quand son père lui dit, Joseph, Joseph, oui, j'aimerais bien avoir quelques nouvelles de tes frères. Pas de problème, je suis l'homme de la situation. Ça me surprend. Je suis surpris, mais agréablement surpris, bien évidemment. Même pas une hésitation. Vous, vous auriez dit, comme moi, attends, j'ai besoin de réfléchir. Hein. Faut vraiment que je réfléchisse. Et puis, peut-être que l'amour du papa et l'amour de la famille l'auraient emporté sur les inquiétudes en disant, bon, c'est pas possible, je vais aller leur apporter un peu des nouvelles de la maison, ils vont pas me faire du mal. Bon, mais d'accord, j'y vais. Avec une certaine appréhension, une certaine crainte. Non, lui, me voici, pas de problème, j'y vais. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'autre intérêt que l'intérêt qu'il avait pour ses frères. Est-ce que vous aimez ceux qui ne vous aiment pas? Est-ce que vous les aimez encore? Ceux qui ont mal parlé de vous, ceux qui vous ont fait du tort, ceux qui vous ont blessé, est-ce que vous les aimez encore? Parce qu'il aime son père aussi. Et il veut pas dire à son père, non, avec tout ce que j'ai passé ces derniers temps, non, écoute, trouve quelqu'un d'autre. Vous imaginez, c'est quand même, ce sont ses frères, ça veut dire que c'est les enfants de son père. Donc, même si ce sont des demi-frères, vous imaginez la blessure? Et combien de familles ont été meurtries parce que les propres enfants se sont déchirés? Et quand un frère ou une sœur ne parle plus à son frère ou à sa sœur, ils se font du mal, mais ils font du mal à leurs parents, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas. Les parents voient ça. Hein. Quand les parents sont obligés de faire des Noëls séparés, des jours de l'an séparés, parce que les enfants ne s'entendent pas, mais c'est catastrophique, cela. C'est quelque chose de terrible, quand même. Alors, la volonté de Dieu, parce que vous êtes chrétien, parce qu'on est chrétien, c'est d'avoir de l'amour, bien évidemment, pour ceux qui sont autour de nous. Et l'amour suprême qui va motiver notre action, c'est l'amour de notre Père qui est dans les cieux, quand même. Parce que l'appel, on l'a entendu de Dieu, n'est-ce pas? Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Qui annoncera cette bonne nouvelle? Qui annoncera ce message? Et on a répondu à cet appel. Alors, faire passer les autres avant soi, c'est ça la notion du sacrifice. Le sacrifice, c'est ça. C'est quand on est prêt à voir le bonheur des autres plutôt que le sien. C'est pas courage fuyant. Non, on se met pas à l'abri. On s'expose. Il y a un risque, il y a un danger. Mais on le fait parce qu'on comprend que c'est important de le faire. Alors, je me suis posé la question. Il le fait. Et sa foi en Dieu va vaincre certainement ses peurs. C'est un sacrifice qui va lui coûter beaucoup. Parce que quand vous regardez la carte, ils habitent à Hébron, c'est pas très loin de la mer Morte. Et ils ont été faire paître les troupeaux à Sichem, beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'entre Hébron et Sichem, vous avez à peu près 80 kilomètres. Il a fait ça à pied. Hein. Donc on fait combien de kilomètres par jour? Une vingtaine peut-être? Ouais. Par les temps, par la chaleur, par le climat là-bas. Donc il s'en est allé pour plusieurs jours de marche. Hein. Et quand il arrive à Sichem, quelqu'un le trouve dans le désert en train d'errer. Ça vous montre que lui aussi, son GPS, il marchait mal ou Non, non, il avait bien trouvé l'endroit, mais bon, c'est fait de collines, c'est du désert, c'est du caillou. Bon, vous pouvez être là, et ce que vous cherchez est juste de l'autre côté de la colline, mais c'est suffisamment haut pour que vous ne les voyez pas, donc le voilà, passer d'un endroit à un autre, etc. Ça va lui demander du temps, ça va lui demander quand même pas mal d'efforts, et finalement, il rencontre quelqu'un, et cette personne lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'as l'air un peu paumé dans la région. » Et j'aime beaucoup cette réponse. « Je cherche. » Mes frères, bien-aimés, tous ceux qui ne vous aiment pas, ça reste des frères et sœurs. S'ils sont chrétiens, et s'ils ne le sont pas, ça pourrait devenir des frères et sœurs. En tous les cas, aux yeux de Dieu, c'est des âmes à sauver. Alors lui, il dit, ben, je cherche mes frères. S'il n'avait pas donné cette indication, s'il avait dit, oh rien, je me promène, ben promène-toi, hein. Il se serait promené longtemps. Mais il avait besoin d'une indication de plus. Et cet homme de leur dire « Ah non, ils ne sont pas là, je les ai entendus parler. » Ils ont dit qu'ils allaient à Dothan. Ça va vous faire plaisir, 25 kilomètres de plus. Toujours plus loin. Hein. Il s'est fait plus de 100 bornes, plus de 100 kilomètres pour trouver ses frères. Je ne sais pas vous, mais je me dis quand même qu'ils ne sont même pas à l'endroit où il espérait les rencontrer. Il faut quand même aller un petit peu plus loin. Et je me dis que pour faire tout ce parcours, ben, il a fallu de la persévérance parce que ça a dû le fatiguer quand même. Ça n'a pas dû être simple de faire cela et ça va lui prendre du temps. Maintenant, je me pose la question, tout le temps qu'il va passer à marcher, à votre avis, il pense à quoi ? Vous y avez pensé qu'il devait penser à quelque chose. Et si vous me dites, moi je pense qu'il pensait à rien, je pense que vous vous trompez. Hein. Il devait penser à quelque chose. Il devait se dire, bon, j'arrive, comment ça va se passer ? Non ? Peut-être pas. Mais moi, je le vois comme ça. Parce que je sais comment je suis. Quand vous devez rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu, à qui, avec qui il faut s'expliquer, etc., on refait le scénario 50 fois dans la tête. Ça va se passer comme ci, comme ça, etc. Et des fois, ça ne se passe pas du tout comme on voulait. C'est triste, ça se passe mal. D'autres fois, ça se passe bien, gloire à Dieu. Et plaise à Dieu que ça se passe toujours bien. Alors lui, il s'est peut-être dit, bon, on va voir, hein, de toute façon, maintenant j'ai dit oui, j'y vais. Hein. J'ai dit oui. Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez dit oui à Dieu ? Ça remonte à quand ? La dernière fois que vous avez dit oui, Seigneur, prends tout. Oui, je te donne tout. Parce qu'on a tous tout donné à Dieu, puis petit à petit, on a repris. On en a mis un peu dans les poches, on en a mis un peu de côté. Et au bout du compte, on est moins efficace. Ça remonte à quand ? Joseph, il y va. Et il les voit de loin. Alors, qu'est-ce qu'il a pensé en les voyant de loin ? J'en sais rien. Par contre, je sais ce que les autres ont pensé en le voyant de loin. Parce que ça s'est écrit. Dès qu'ils l'ont aperçu de loin, c'est fou. Hein ? Quelquefois, vos haines, vos colères, elles sont enfouies. Et vous dites, ah, ça me fait plaisir, j'ai plus de colère contre lui, contre l'autre, je ne me réveille pas le matin avec son visage devant les yeux, avec l'envie de lui envoyer des fléchettes. Non, je me sens bien, j'ai l'impression que ça va mieux, je suis beaucoup plus calme. Mais il suffit à peine de voir passer son ombre ou de sentir quelqu'un qui a le même parfum, il y a tout qui remonte. C'est bizarre, hein ? À peine l'ont-ils vu de loin, mais la haine est sortie d'une force. Parce que là, c'est direct, hein ? Dès qu'ils se rendent compte qu'il est là, tout de suite, ils vont s'adresser les uns aux autres en disant « Voilà le faiseur de songes, venez maintenant et tuons-le. » Il n'y a même pas d'explication, il n'y a même pas essayé de le malmener, lui donner des claques, des coups de poing, de le maltraiter, non, rien, on va le tuer. Je me dis que sur ce parcours, il est parti, il a fait son voyage. Mais c'est certain qu'il n'y gagnera rien. Et c'est certain qu'il a peut-être espéré que ça tournerait pas mal, mais il était peut-être pas loin de penser que ça allait être compliqué. Parce que dites-moi, comme l'apôtre Paul qui un jour passe par une certaine ville, parce qu'il est en direction de Jérusalem, et il y a des prophètes par là, et notamment un de ces prophètes va prendre la ceinture de Paul et il va se lier avec cette ceinture. Et il va dire, celui à qui appartient cette ceinture va être lié à Jérusalem. Et beaucoup comprennent que si Paul monte à Jérusalem pendant la fête, ça va mal se passer. Et effectivement, ça va mal se passer. Il va être arrêté, il va y avoir une émeute. Il va être arrêté, il va être jeté en prison. Et de là, c'est en direction de Rome qu'il devra rendre témoignage devant César. Ça s'est mal passé. Et tout au long du parcours, comme certains sont avertis, ils avertissent Paul en disant « Paul, ne monte pas à Jérusalem, c'est pas le moment, c'est pas le bon timing, tu vas avoir des problèmes, ça va mal se passer, ta liberté va être restreinte, tu vas être jeté en prison. » Et au bout du compte, Paul va leur dire « Mais pourquoi est-ce que vous me faites de la peine ? Je le sais, mais quelque part c'est pas parce que je suis averti qu'il va y avoir des problèmes que je dois pas y aller. Je suis averti qu'il va y avoir des problèmes, mais je sais que je dois y aller. » Je vois Joseph, homme de foi, dans la même attitude, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut continuer d'avancer quand vous êtes saisi par le doute et quand vous vous dites « mais je ne veux pas y aller, ça va mal se passer, faut que je fasse marche arrière, où est la marche arrière ? Je ne trouve plus la marche arrière sur la voiture, faut que je m'en aille !» Quand on a l'impression que l'angoisse nous saisit, c'est parce qu'on sait, lorsque Dieu nous avertit, que Dieu sera quand même avec nous, qu'on décide de continuer d'y aller. Sinon on n'y va plus, sinon on renonce. Et lui a décidé d'y aller. Est-ce qu'il ne s'est pas douté de ce qui allait arriver ? Peut-être pas dans les détails, mais je me dis qu'il n'était pas bête. Sauf que pour lui, l'obéissance au commandement de son père a été plus fort que l'envie d'abandonner. J'espère que votre attachement, votre obéissance au commandement de Dieu, allez, annoncez la bonne nouvelle, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ayez ce témoignage, marchez par l'esprit. La vie de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience. C'est pas les œuvres de la chair, parce qu'on est lié par ces choses-là aussi. Mais évidemment, plus on remplit d'un côté, et plus ça se vide de l'autre. Est-ce que cette volonté de vouloir obéir au commandement ne va pas surpasser votre désir d'abandonner ? Moi, je le crois. Finalement, c'était risqué pour lui, mais il a décidé d'y aller quand même, parce qu'il savait qu'un sacrifice, ça coûte toujours. Ce qu'il n'a peut-être pas imaginé, c'est que ça allait être une mort programmée pour lui. Parce que quand on a mis la main sur lui, il a eu la vie sauve grâce au frère aîné, Ruben. Ruben va, quand il va entendre que les uns les autres disent « on va le tuer, terminer, on en a marre », il n'y a que Ruben qui dit « non, ne faites pas ça ». C'est quand même leur frère. Et il va dire « non, non, ne faites pas ça ». Je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas ce qu'on fera de lui, mais pas là, sur le coup de la colère. On va plutôt le jeter dans une citerne vide, l'air de dire, et puis on verra. Là, il y a comme un blanc dans l'écriture, très étonnante. C'est qu'on va prendre Joseph, on va le jeter dans une citerne, un peu plus loin. Ils vont eux-mêmes avouer que ça va durer un certain temps, parce qu'après l'avoir jeté dans la citerne, eux, ils vont manger. Il me dit que peut-être Joseph leur a amené à manger. Le père a ramené un peu de nourriture bien fraîche de la maison, les gâteaux de maman, etc. Et ils ont pris tout ce que Joseph a amené, et puis pendant qu'ils se régalent, pendant qu'ils mangent, pas de problème, il y en a un qui est en train d'hurler au fond d'un trou, « Sortez-moi de là !» Eux-mêmes rendront ce témoignage, « Nous avons entendu l'angoisse de son cœur. » Vous imaginez ? Et eux, ils mangent tranquilles. Alors à qui se pose la question, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait ? Et Ruben n'est pas là. Je ne sais pas où est Ruben. Ruben est parti. Pourquoi Ruben n'est pas resté ? À votre avis, pourquoi Ruben n'est pas resté ? Le seul qui avait un brin de compassion pour son frère, c'est Ruben. Il a déjà réussi à enlever Joseph de leurs mains pour ne pas qu'il le tue. Et après, vous ? Si vous êtes ainsi le protecteur de celui qui est faible, vous allez le laisser au milieu de ses ennemis pour vous en aller. Vous allez rester. Vous allez le protéger tant que vous pouvez. Là, il y a quelque chose de bizarre. Ruben s'en va. Et si Ruben n'était pas parti, rien de la suite ne serait arrivé, j'imagine. Si Ruben ne s'était pas absenté, je ne suis pas convaincu que quand une caravane passe par là, en direction de l'Égypte, je ne suis pas convaincu que Ruben ait laissé faire ses frères en disant « pour 20 pièces d'argent, on va vendre notre frère ». C'était le sacrifier à une mort terrible. Je ne suis pas persuadé qu'il aurait accepté ça. Quand Ruben reviendra, quelques moments plus tard, il va aller vers la citerne, il revient vers ses frères en disant « mais il est où ? Il est où ?» C'est bizarre quand même. Dieu fait des choses anormales quelquefois. On n'imaginait pas que ça devrait se passer comme ça. Et heureusement que Dieu fait des choses anormales, parce que Il nous élève un petit peu plus haut. Finalement, derrière toute cette attitude, eh bien, ça ne s'est pas passé comme il imaginait. Il n'était pas arrivé qu'il était déjà mort. Hein. Alors, il a été maltraité, il a été vendu, il a été humilié, il a été rejeté, il a été oublié. Ils vont prendre le beau vêtement de Joseph. Il va partir avec le strict minimum, même son beau vêtement de couleur. Ils vont le prendre, ils vont tuer un animal, ils vont jeter la tunique dans le sang, et ils vont ramener ça à leur père en disant « Regarde, on a trouvé ça. Est-ce que ce n'est pas Joseph ?» C'est comme s'ils ont décidé de l'oublier. Hein. Tu es mort. Dans certains pays, quand certains donnent leur cœur à Dieu, on procède à leur enterrement dans la famille qui n'est pas croyante. On dit « Tu es devenu chrétien ?» Tu n'existes plus, tu es mort. Et il peut lui arriver n'importe quoi, c'est fini, il n'existe plus. Le pasteur indien que vous avez vu tout à l'heure nous disait, puisqu'il travaille dans des contextes très 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 difficiles, très compliqués, et un jour nous le recevrons, et il aura l'occasion de vous expliquer tout cela, mais il nous rappelait une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il baptise quelqu'un, chaque fois qu'il baptise quelqu'un, il dit à cette personne, les questions que l'on pose habituellement, nous, quand on baptise quelqu'un, est-ce que vous croyez que Jésus est le Sauveur ? Oui. Est-ce que vous croyez qu'il a pardonné vos péchés à la croix ? Oui. Est-ce que vous croyez dans son salut ? Est-ce que vous avez la certitude qu'il vous a préparé une place au ciel, que vous irez au ciel ? Oui, oui, oui. Ils répondent oui à toutes les questions. Et la dernière question, est-ce que tu es prêt à mourir pour lui ? Et si ces gens-là disent non, ils ne les baptisent pas. Vous entendez ? Ils ne les baptisent pas. Et si ces gens-là disent oui, alors ils les baptisent. Certains pourraient dire, bon, d'accord, formalité. Quelque temps de cela, ils ont baptisé une jeune femme comme ça, qui a dit oui, je suis prêt à mourir. Une semaine après, sa famille, parents en tête, apprenait qu'elle était devenue chrétienne, ils l'ont brûlée vive. C'est comme ça que ça se passe en Inde. Hein. Ils l'ont brûlée vive. Elle est morte, mais elle avait dit, je suis prêt à mourir. Et ça, ce n'est pas arrivé une fois, ça arrive des dizaines de fois. Donc, on comprend que Joseph est mis à mort, quelque part, mis à mort. Mais béni soit Dieu, parce que la vie chrétienne, elle se passe toujours comme cela. Il faut mourir pour ressusciter. Si vous ne mourrez pas vous-même, vous ne ressuscitez pas. D'ailleurs, quand Jésus meurt à la croix, il préfigure le baptême, il nous le dit. Et si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez passer par les eaux du baptême. Vous devez finalement mourir à vous-même, disparaître sous l'eau, et ressortir de l'eau comme une résurrection en nouveauté de vie. Vous êtes mort à vous-même et celui qui naît, c'est quelqu'un de neuf, c'est quelqu'un de nouveau. C'est ça la vie chrétienne. Et Joseph va l'expérimenter, mais pas comme il imaginait, parce qu'il va être livré à cette caravane d'Amalécites qui vont aller sur un marché d'esclaves en Égypte. Et sur un marché d'esclaves, il va être vendu. 17 ans. C'est un ado, hein ? Il n'a que 17 ans. Et ça va durer 20 ans. Pendant 20 ans, on n'entend plus parler de lui en Israël, en Canaan. Personne n'entend parler de Joseph, même le père a fait son deuil depuis longtemps. Par contre, on suit le parcours de Joseph. Il a atterri dans une maison. Il a été accusé de viol, à tort. Il a été jeté en prison. Finalement, il a encore des songes, il a encore des rêves. Et tout cela va le faire sortir de la prison. Et tout cela va lui donner un petit peu le programme de ce qui va arriver en Égypte pendant les 14 années qui vont venir. Et de fil en aiguille, le pharaon va faire de lui l'homme le plus important de l'Égypte après lui. Un parcours incroyable, inimaginable. C'est une mort. Mais ce Joseph qui a 37 ans, c'est une résurrection incroyable. Et 20 ans plus tard, ses propres frères viendront, parce que c'est la famine partout, viendront pour récupérer un petit peu à manger. Et devant qui vont-ils se prosterner ? Devant Joseph, ressuscité. Un nouveau Joseph. Eux, ils ne le reconnaissent pas, mais lui, il les a bien reconnus. Il leur parle avec un traducteur, il a appris la langue. Sauf qu'il comprend très bien ce qu'ils disent. Vous n'oubliez pas la langue à 17 ans. Vous n'oubliez pas votre langue. Et par plusieurs stratagèmes, il va les amener à se révéler à eux, à se faire connaître à eux de façon exceptionnelle. Le résultat, c'est que toute la famille, tu seras sauvé, toi et ta famille, toute la famille de Joseph va être sauvée à cause de lui, à cause de Joseph. Préfiguration, hein. De ce que Jésus fera en venant sur la terre pour sauver l'humanité, bien évidemment. Préfiguration. Mais ce que je remarque, et je terminerai avec cela, c'est qu'il a eu raison d'obéir à son père. Il a cherché ses frères jusqu'à ce qu'il les trouve. Alors il les a trouvés une première fois après au moins 4 jours de marche, puis il les retrouvera après 20 ans. Cette fois-ci, ce n'est pas lui qui les cherche, ce sont eux qui sont arrivés jusque vers lui. Quelquefois, on aurait bien aimé que certains viennent vers nous pour nous demander pardon, pour ceci, pour cela, pour s'excuser. Peut-être qu'ils ne viendront pas. Peut-être qu'il faut y aller aussi. Il faut aller chercher vos frères. Parce que si vous ne vous êtes pas perdus, eux le sont peut-être. Si vous, vous n'êtes pas paumés, eux le sont peut-être. C'est à vous d'aller les chercher, évidemment. Il a cherché à les bénir. Quand il va les reconnaître, vous les auriez eus sous la main. Peut-être que vous auriez voulu les étrangler les uns après les autres. Vous auriez dit, je tiens ma vengeance. Et comme la vengeance est un plat qui se mange froid, 20 ans après, le plat, il est bien froid. Donc je vais me venger. Non, non. Il a juste voulu les bénir. C'est remarquable. Juste voulu les bénir. Il y a une explication à la fin de ce livre de la Genèse. Il leur dira ceci à ses frères qui sont inquiets parce que le papa est mort. Joseph va leur dire, chapitre 50 de la Genèse, verset 19, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph ne dit pas « Dieu a changé le mal en bien, vous aviez décidé de me faire du mal et Dieu ne m'a fait que du bien. » Il ne dit pas ça, hein, parce qu'il n'a pas vécu que du bien. Il a galéré pendant des années. Mais il dit « Vous aviez prévu de me faire du mal. » Eh bien, Dieu l'a changé en bien pour tout le monde. Aussi pour moi, mais je vois qu'il l'a fait pour vous aussi. Alors que Dieu nous donne ce même cœur, évidemment, c'est à l'opposé des querelles, hein, c'est à l'opposé des jalousies, que Dieu nous donne la bienveillance. Que ce soit un des fruits, une caractéristique du fruit de l'esprit en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté. Que l'on puisse être rempli de cet ardent désir de faire du bien. Je cherche mes frères. J'ai volontairement posé cette question à l'écran. Depuis quand n'as-tu pas été chercher ton frère pour le bénir ? Depuis quand as-tu recentré ta vie chrétienne sur toi en disant « c'est moi avec Dieu, ma relation c'est moi et Dieu, les autres. Dieu s'en occupe, moi j'ai pas le temps. » Quand est-ce que tu as été chercher un frère perdu ? Quand est-ce que tu as été parler à quelqu'un qui était dans la détresse, dans le besoin, même qui a du ressentiment, qui ne va pas bien? Vous vous souvenez de ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, dans cette galerie de la foi, où on parle d'hommes qui ont souffert, d'hommes qui ont été blessés et qui ont été meurtris. On se souviendra qu'on nous parle d'Enoch. Il a marché 300 ans avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mais quand on sait comment les gens vivaient à l'époque, il a dû être content de partir, hein. Ce n'était pas une époque favorable. Regardez Noé. Noé, il a été moqué, on s'est moqué de lui. Il a été seul dans cette aventure, ça veut dire que les autres étaient contre lui. Si je vous parle de Lot, qui tourmentait son âme tous les jours, il avait fait des mauvais choix, mais il n'était pas au bon endroit. Il a souffert lui aussi. Quand on parle de Moïse, n'en parlons pas, traversée du désert. Vous savez que dans toute vie chrétienne, il y a une traversée du désert. Pour Joseph, elle a existé pendant 20 ans. Cette traversée du désert, pendant 20 ans, de 17 à 37. Parce que ne me dites pas que même s'il est tout en haut, d'ailleurs il va être marié en Égypte. Et vous reverrez, mais le nom qu'il donnera à ses deux enfants sont ni plus ni moins que la nostalgie et le souvenir de son enfance et de son pays. C'est comme s'il ne voulait pas couper le cordon, il ne veut pas se détacher de ses origines, parce qu'il en souffre, parce qu'il en est loin. Et pendant 20 ans, ça va durer, et puis la venue de ses frères, ça va être la clé pour à nouveau éprouver la joie. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Noé a vécu 100 ans dans le désert. Il a mis 100 ans à bâtir l'arche. 100 ans de désert. Et vous, vous avez passé le désert aussi, certainement, quelques années, quelques paires d'années, malheureusement, dans les difficultés, dans les peines. Mais voilà, si tous ces gens ont vécu le désert, je me souviendrai quand même de ce qu'il est dit dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Et un peu plus loin, il est dit au verset 37, « Ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Mon frère, ma sœur, jusqu'où es-tu prêt à supporter? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Cette question, tu vas y répondre selon le gain et le bénéfice que tu y poses. Est-ce que tu cherches à gagner quelque chose? Est-ce que tu cherches ton intérêt d'abord ou l'intérêt de l'autre? Selon comment tu diriges ton action, il est évident que tu supporteras davantage ou tu ne supporteras plus. Mon frère, ma sœur, l'intérêt majeur, c'est la gloire de Dieu. C'est que Dieu soit glorifié, n'est-ce pas? C'est que Dieu soit sauvé, c'est que Dieu soit béni et que des hommes et des femmes soient sauvés. Alors allons jusqu'où Dieu nous demande d'aller. C'est un sacrifice, la vie chrétienne, mais quel agréable sacrifice. Parce qu'on vit des moments comme ce matin, on vit des moments de ressourcement, on vit des moments de joie, on vit des moments de renouvellement, et même quand on est tout seul, la main de l'Éternel n'est jamais loin. La voix de l'Éternel n'est jamais loin. Il est toujours là pour nous accompagner, pour nous encourager, pour nous bénir. Allez mon frère, il est temps de te lever et de repartir à la recherche de ton frère et de ta sœur qui s'est égaré pour l'amener à nouveau à retrouver le chemin avec Dieu. Et si il y a un conflit avec toi et que ce n'est pas de ta faute, c'est toi qui as la clé de le résoudre pour le résoudre encore. Et c'est bon de le faire. Amen. On se lève ensemble et on invoque son nom. Amen. Seigneur, nous te remercions pour Joseph. Nous te remercions pour cet homme qui a eu le courage d'aller chercher ses frères. Et tant mieux, parce que derrière tout cela, il y avait le plan parfait de Dieu, il y avait le plan incroyable de Dieu. Ça a demandé des années, il a fallu des centaines de kilomètres, il a fallu des expériences bien humiliantes pour les frères de Joseph, mais tout cela pour arriver à la liberté et tout cela pour arriver à la réconciliation. Je veux croire à ta bonté à notre égard. Je crois que tu nous as sauvés pour nous utiliser. Tu nous as sauvés pour faire de nous des serviteurs engagés dans ton œuvre. Alors merci pour tout ce que nous avons pu faire, et merci pour tout ce que nous ferons encore pour toi. Nous avons chanté à Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il avait fait, mais nous avons aussi chanté que nous croyons que la gloire de Dieu va se manifester parce qu'il va faire des choses encore. Merci d'agir, merci de te glorifier. Raccompagne-nous dans ta paix, apporte-nous la paix, le réconfort, et bénis encore, s'il te plaît, cet après-midi, tous les temps à venir, glorifie ton nom. Amen.